7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 22 mai et à 4 jours des élections européennes de dimanche, le Rassemblement National en tête des intentions de vote avec 23% contre 22% pour La République En Marche. C'est un sondage BVA Orange pour Europe 1 et La Tribune. Et à 8h15, Jordan Bardella, tête de liste RN, sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara. Et dans cette dernière ligne droite, Europe 1 poursuit son tour d'Europe. Après l'Estonie et la Suède, direction ce matin la Hongrie de Viktor Orban. Dans son pays, le leader populiste veut une jeunesse 100% hongroise et chrétienne de surcroît. Il appelle les Hongrois à faire des bébés, dossier complet à 7h20 dans Europe 1 va plus loin. Europe 1, vous le révélez hier, deux salariés de l'hypermarché Cora licenciés parce qu'ils refusaient de travailler le dimanche. Inadmissible et dangereux pour Jean-Michel Apathy, son édito à 7h40. Et puis un casting de stars qui a électrisé littéralement la croisette hier soir. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino, le réalisateur de Pulp Fiction, est venu présenter Once Upon a Time in Hollywood. Il était une fois à Hollywood, 25 ans après sa Palme d'Or, le journal du festival. À 8h35 avec Mathieu Charrier, à tout de suite.
Et bon réveil à tous sur Europe 1 en ce mercredi 22 mai. Il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Et le journal de 7h est présenté par Hélène Zélani. Ensoleillé ce matin. Bonjour Hélène.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité.
Un CRS renvoyé aux assises pour avoir éborgné un manifestant. Il est accusé d'un tir de grenade injustifié. C'était lors d'une manifestation en 2016. Qui sont les soutiens des parents de Vincent Lambert dans le combat pour maintenir leur fils en vie? Des militants qui s'étaient déjà battus, notamment contre le mariage pour tous. Enquête dans ce journal. Et puis le fameux Shabadabada va résonner à nouveau sur tous les écrans avec la sortie aujourd'hui du nouveau film de Claude Lelouch, Les plus belles années d'une vie, la suite de l'inoubliable Un homme et une femme.
8h15, Jordan Bardella, tête de liste du parti de Marine Le Pen, sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara.
Laurent Théron, militant du syndicat Sud, ne verra plus jamais de son œil droit. Cet homme a été grièvement blessé lors d'une manifestation contre la loi travail en septembre 2016, blessé par une grenade de désencerclement. Elle avait été lancée par un CRS qui va devoir comparaître devant une cour d'assises. Ainsi en ont décidé deux juges d'instruction, Jean-Jacques Herry.
Oui, et se renvoie devant cette juridiction, devant une cour d'assises et donc un jury populaire. Il veut dire que l'on va juger d'un crime, soit la classe d'infraction la plus grave en droit français. Du côté de la victime présumée, on estime que cela est parfaitement justifié, que rien n'a été respecté ce 15 septembre 2016, lorsque le CRS a lancé cette grenade de désencerclement. Maître Julien Pignon, l'avocat de la victime présumée, énumère les manquements. Pour lui, les faits sont clairs, nets et précis. Il ne souffre d'aucune contestation.
Un policier qui n'en avait pas l'habilitation, qui a fait un lancer non réglementaire sans avoir reçu l'ordre. Tout a été fait, tout a été vérifié par l'IGPN. Tout pointait dans le sens d'une utilisation parfaitement illégitime d'une grenade de désencerclement et de conséquences dommageables que l'on peut qualifier d'infirmité permanente. On a rarement une situation aussi dépourvue d'ambiguïté.
En face, l'avocat du CRS, maître Laurent-Franck Liénard, a lui décidé de faire appel de cette décision, annonçant qu'il allait se battre sur l'appréciation juridique des faits. Cela n'a aucun sens. Mon client n'avait aucune intention criminelle, dit-il. C'est un bon père de famille de 50 ans qu'on envoie devant un jury populaire. Il voulait simplement se protéger et protéger ses collègues.
Jean-Jacques Herry.
C'est la dernière ligne droite dans la campagne des européennes avec plusieurs grands meetings hier soir.
Oui, celui de Marine Le Pen dans Lyon qui a appelé les Gilets jaunes à voter pour la liste du Rassemblement National. Le RN en tête des intentions de vote selon le sondage BVA Orange pour Europe 1 et La Tribune. 23%, un point devant La République En Marche. Les Républicains arrivent en troisième position à 13%, mais il y a tout de même 40% des électeurs qui disent pouvoir changer d'avis. Hier soir, la tête de liste LR, François-Xavier Bellamy, était en meeting à Villeurbanne, près de Lyon, avec à ses côtés Laurent Wauquiez. L'occasion de tirer à boulet rouge sur Emmanuel Macron. Aurélie Herbemont.
Plus de 2000 personnes, mais aussi 300 chaises vides, comme un symbole de la droite qui ne fait pas le plein. Une partie de son électorat vote Emmanuel Macron, alors Laurent Wauquiez cible le chef de l'État.
La vision qu'il porte pour l'Europe ne correspond pas aux valeurs de la droite et du centre. La dislocation de l'Europe, il en est depuis 2 ans l'acteur. Il a abîmé l'amitié franco-allemande. Dans cette campagne, quand Emmanuel Macron s'engage, c'est juste pour se sauver lui-même et rien de plus.
Emmanuel Macron qui est aussi dans le viseur de François-Xavier Bellamy.
Ce président de la République qui nous avait dit que l'Europe était le cœur de son engagement nous a expliqué que la seule question était de voter pour ou contre lui, comme s'il devait être le seul sujet de la vie démocratique. Quel incroyable narcissisme.
LR espère ainsi grappiller des voix d'ici dimanche, même si un dirigeant s'inquiète. La droite modérée ne vote pas Bellamy Wauquiez, dit-il. Laurent Wauquiez, lui, estime que son parti sera entre 12 et 14%, de quoi franchir, selon lui, une étape fondatrice de la reconstruction de la droite. Villeurbanne, Aurélie Herbemont, Europe 1.
Et l'Europe a les yeux rivés sur le Royaume-Uni, premier pays à lancer le vote des européennes demain avec les Pays-Bas. Mais Theresa May, elle, est surtout préoccupée par les négociations du Brexit, toujours au point mort. Les députés ont rejeté toutes ses propositions, alors elle vient de leur soumettre une série de compromis avec notamment la possibilité de voter sur un second référendum. Europe 1, il est 7h03.
L'acte 2 du procès Balkany entre aujourd'hui dans le dur, dans le vif du sujet.
Oui, avec cette fois des accusations de blanchiment, de fraude fiscale et de corruption pour lesquelles le couple risque jusqu'à 10 ans de prison. Isabelle Balkany, toujours hospitalisée après une tentative de suicide, suit le procès à distance. Elle pourrait se présenter devant le tribunal la semaine prochaine. Chloé Triomphe.
Depuis cette semaine, Patrick Balkany n'est plus seul face au tribunal. Son fils de 38 ans, Alexandre, l'a rejoint pour ce deuxième volet du procès sur les faits de blanchiment, de fraude fiscale et corruption. Il ne manque donc plus à l'appel qu'Isabelle Balkany, qui, selon son avocat, maître Pierre-Olivier Sûr, suit assidûment les débats sur les réseaux sociaux, puisqu'elle lui envoie même une quantité de SMS pendant les audiences.
Donc elle réagit, elle veut venir, elle attend de pouvoir venir, elle espère sortir de l'hôpital cette semaine et nous espérons qu'elle viendra au procès la semaine d'après.
Si sa santé le permet, Isabelle Balkany complétera donc le tableau familial aux côtés de trois autres prévenus. Un avocat, un promoteur saoudien et l'ancien bras droit de Patrick Balkany à Levallois-Perret pour ce volet du procès qui débute vraiment au fond cet après-midi. Pendant 5 semaines, le tribunal va se plonger dans les montages financiers du couple avec des comptes qui vont du Panama à Singapour en passant par le Liechtenstein, des comptes garnis de plus de 13 millions d'euros.
Un Chloé Triomphe.
Europe 1. Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani. Enquête sur les militants qui soutiennent les parents de Vincent Lambert. A tout de suite. Bon réveil.
Il est 7h06. Votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani. On les a beaucoup vus, beaucoup entendus ces derniers jours. On parle des centaines de militants mobilisés pour soutenir les parents de Vincent Lambert. Qui sont-ils ?
Oui, notamment, on les a vus sur ces images dans lesquelles ils criaient victoire après l'annonce de la reprise des traitements pour maintenir en vie Vincent Lambert. Qui sont donc ces soutiens qui se sont mobilisés via les réseaux sociaux ? Vous avez enquêté pour Europe 1, Justin Morin. Visiblement, cette cause est devenue un enjeu de société majeur dans les milieux pro-vie.
Derrière le slogan « La vie pour Vincent », il y a les militants de la Marche pour la vie, les militants de l'Alliance Vita, très actifs dans les débats de bioéthique, et les fervents catholiques jusqu'aux plus traditionalistes. Comme un air de déjà-vu, tous se retrouvent aujourd'hui pour soutenir le maintien en vie de Vincent Lambert après s'être battu contre le mariage pour tous et l'ouverture de l'adoption aux couples du même sexe. À les écouter, la lutte contre l'avortement et la PMA sont liées. Ces militants se représentent en fait comme les ambassadeurs de la vie face aux mensonges politiques et médiatiques autour du calembert. Dixit, maître Jérôme Triomphe, l'un des avocats des parents. Jérôme Triomphe, également connu pour défendre la Manif pour tous, le mouvement catholique intégriste Civitas et le journal d'extrême droite Minute. Le mouvement trouve aussi de l'argent pour s'organiser grâce notamment à des fondations bien implantées. Par exemple, la fondation Jérôme Lejeune consacrée à la recherche médicale et à la dignité des personnes fragiles. Son président Jean-Marie Le Méné, ouvertement anti-avortement, a répondu à l'appel à l'aide des parents dès le début. Il suffit de regarder le dernier rapport d'activité publié il y a 2 ans pour le confirmer. 90 000 euros ont été débloqués pour la cause de Vincent Lambert.
Enquête signée Justin Morin.
À 7h30, vous entendrez l'un des amis de Vincent Lambert, étudiant infirmier. En même temps que lui, il dénonce l'acharnement des parents et assure que Vincent aurait préféré partir.
La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux fin mai. L'agression d'une femme transgenre lors d'une manifestation anti-Bouteflika à Paris. Julia, c'est son nom, va se retrouver face à son agresseur tout à l'heure devant le tribunal correctionnel de Paris.
C'est le moment de parler cinéma, Hélène Zélani, avec cette montée des marches ultra glamour hier à Cannes. Il manquait plus que vous.
Oui, c'est ça. Brad Pitt et Leonardo DiCaprio ont reçu un accueil triomphal en venant présenter Once Upon a Time in Hollywood aux côtés du réalisateur Quentin Tarantino. À la fin du film, qui dure plus de 2h30, les spectateurs ont applaudi pendant 7 minutes. Eux, ils étaient à Cannes le week-end dernier. Claude Lelouch et son couple star Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant. Leur film Les plus belles années d'une vie sort aujourd'hui sur grand écran. La suite du mythique Un homme et une femme, les mêmes acteurs plus de 50 ans après. Et le même décor, Deauville. François Geffrier a fait un petit tour sur les planches.
Mon cœur y voit Tchabanabana. Tchabanabana.
Non. Je crois que tout le monde le connaît.
Ils sont habitants de Deauville depuis plus de 70 ans. Cette brochette de retraités profitant du soleil sur les fameuses planches n'a rien oublié de la musique ni du film.
Il est en Ford Mustang. Il arrive sur la plage et il aperçoit cette femme qui joue avec une petite fille. Et c'est un film romantique.
Tu voyais le tournage à Deauville, toi?
Il a pris un coup de vieux quand on le regarde. Mais c'est une telle référence. Je pense qu'au niveau de passion amoureuse, je crois qu'un homme et une femme resteront toujours un modèle quelque part.
À quelques mètres, l'hôtel Normandie propose pour 2 900 € la nuit de dormir dans la suite qui a servi de décor. Jérôme Limoges est le directeur.
On a demandé à notre décorateur de nous sortir une toile de Jouy en sépia. C'est la seule suite qui reste dans son jus avec les mêmes lampes de chevet de l'époque, avec la même décoration. On a juste rajouté des extraits du film.
Le destin de Deauville a été transformé par un homme et une femme, selon son maire Philippe Augier.
Le film a montré la dimension romantique de la ville, l'a fait connaître à travers le monde. Moi, je me suis promené avec Claude Lelouch un jour en Corée, sur un marché à Séoul, les gens le reconnaissaient. C'est assez extraordinaire.
Un film référence donc, comme la musique de Francis Lai, qui faisait comment déjà ?
Merci François Geffrier, grâce à vous, on l'a dans la tête jusqu'à la fin de la journée.
Merci à vous, surtout Hélène Zélani. Bonne journée et à demain, 7h.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h10, c'est Martin Fenot qu'on part retrouver, Nikos, quelque part en France.
Martin qui, à quelques jours des élections européennes, nous fait découvrir ce que finance concrètement l'Union européenne en France. Bonjour Martin, vous êtes où ce matin ?
Bonjour Nikos, je suis sur un quai de chargement à Rungis, vous l'entendez, devant un entrepôt très particulier, le plus grand site de stockage des Restos du Cœur. Hangar de 4400 m2, il y a des palettes remplies de boîtes de conserve, de packs de lait, de produits d'hygiène qui sont chargés en ce moment à l'arrière des camions pour être distribués plus tard dans la journée aux bénéficiaires. Si je me rapproche, Nikos, de ces produits, certains ont un petit logo sur l'étiquette, logo qui indique qu'ils ont été payés, financés par l'Union européenne. Alors je vais laisser Thierry Jacques, le responsable du site, vous expliquer, mais en un mot, l'Europe fournit un quart du stock.
Il y a un tout petit logo sur les briques de lait, mais qui est pratiquement invisible. Tout ce qui est conserve de poisson, tout ce qui est couche, tout ce qui est produit pour bébé. Donc si on n'avait pas l'Europe, si cette subvention s'arrêtait, on ne pourrait pas livrer un quart des repas toute l'année. Donc ça veut dire qu'actuellement on livre 130 millions de repas. Eh ben, on ne pourrait pas livrer entre 30 et 40 millions de repas. Voilà, donc c'est colossal.
Est-ce que cette aide, justement, colossale concerne d'autres associations, Martin ?
Oui, bien sûr, il y a le Secours Populaire, la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire, mais ce sont les Restos du Cœur qui en sont à l'origine. Le 20 février 1986, Coluche, son fondateur, se rend au Parlement européen. Il est habillé avec sa salopette en jean et écoutez ce qu'il dit aux députés. Il leur demande d'ouvrir les frigos de l'Europe.
Ce qu'on est venu dire ici, c'est qu'il faudrait que ça s'élargisse à la communauté et que tous les pays, pour les déshérités qui n'ont pas à manger, puissent avoir accès à ces excédents de production qui, finalement, très souvent, sont détruits.
Alors aujourd'hui, il ne s'agit plus d'excédents de production, c'est devenu une aide financière, le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Et ce qui inquiète Denis Lacrampe, qui gère les stocks au Resto du Cœur, c'est que d'ici 2 ans, ce fonds pourrait être divisé par 2.
Une famille à qui on dit... Eh bien, on est désolé, on ne peut pas vous aider. C'est une catastrophe pour elle. Et donc, le côté alarmant de dire le budget risque de baisser substantiellement, c'est de se dire le nombre de familles accueillies et aidées risque de baisser substantiellement aussi. Et c'est ça qui est très, très inquiétant.
D'accord. Et ça impliquerait, ou ça impacterait plutôt combien de personnes, si c'était le cas, Martin ?
Alors aujourd'hui, dans toute l'Union européenne, Nikos, 16 millions de personnes en situation de grande précarité bénéficient de cette aide. Donc mécaniquement, si elle est divisée par 2, eh ben on peut imaginer que ça toucherait, et ça fait froid dans le dos, 8 millions de personnes en Europe.
C'est considérable. Chacun d'entre nous peut agir, puisque le montant de cette aide, il est dans les mains des députés européens que nous sommes appelés à élire dimanche prochain. Vous êtes où ce matin ? C'est tous les jours avec Martin Fenot, merci.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre l'édito éco avec vous, Nicolas Barré. Bonjour, on parle de quoi ?
Bonjour Nikos. Les entreprises françaises qui multiplient les rachats d'entreprises à l'étranger et notamment aux États-Unis.
Dans quelques instants. Et puis à 7h20, avant les élections de dimanche, Europe 1 poursuit son tour d'Europe. Après l'Estonie et la Suède, direction ce matin la Hongrie de Viktor Orban. Population vieillissante, peur de l'immigration. Le leader populiste appelle les Hongrois à faire des bébés. Il veut une jeunesse hongroise et chrétienne. Dossier complet dans Europe 1 va plus loin. Tout de suite.
Bon réveil à tous. Il est 7h14.
Youpi.
Il est 7h16, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Les principaux candidats aux européennes vont tenter de mobiliser l'électorat ce soir. Débat sur France 2. Et selon le dernier sondage BVA Orange pour Europe 1, le Rassemblement National est en tête des votes avec 23% et En Marche deuxième à 22% mais avec 40% d'indécis. Un policier renvoyé aux assises pour un tir de grenade injustifié, c'était il y a 3 ans lors d'une manifestation contre la loi travail. Son avocat va faire appel de cette décision. La taxe GAFA sur les géants numériques adoptée cette nuit au Sénat, elle devrait rapporter 400 millions d'euros cette année. Les États-Unis soupçonnent le régime de Bachar el-Assad d'avoir mené une nouvelle attaque chimique en Syrie. Une attaque au chlore dimanche dernier. Washington menace Damas de représailles.
Europe 1. Économie maintenant, c'est l'édito éco Nikos avec la banque Nugé pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Nugé, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec vous Nicolas Barré, vous êtes le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Alors on s'inquiète, hein, vous nous le dites souvent dans vos reportages, quand une entreprise française se fait racheter par un étranger, surtout s'il est chinois. Par contre, on est content quand c'est l'inverse. Nicolas, les entreprises françaises rachètent des concurrents étrangers à tour de bras, ça n'arrête pas.
Oui, figurez-vous que ces 2 dernières années, les entreprises françaises ont racheté pour plus de 100 milliards de dollars d'entreprises étrangères, 100 milliards par an, c'est-à-dire, pour donner une idée, l'équivalent des profits annuels de toutes les entreprises du CAC 40 réunies. C'est des montants inégalés depuis 2008 qui montrent une vraie volonté de conquête. Alors, et puis, autre surprise, nos entreprises achètent surtout des entreprises aux États-Unis. Rien que depuis le début de l'année, 18 acquisitions ont été réalisées ou annoncées selon des statistiques du cabinet Dealogic. Alors, ces acquisitions sont souvent, évidemment, le fait de grandes entreprises. Par exemple, Sanofi, le géant de la pharmacie, a mis 12 milliards de dollars sur la table pour racheter un spécialiste américain de l'hémophilie. Vous avez l'année précédente, Danone avait racheté WhiteWave, qui est un leader américain du bio. Et puis, on peut citer aussi Air Liquide, qui a énormément investi aux États-Unis.
Comment expliquez-vous cette frénésie de rachat à l'étranger, vous ?
Alors, une bonne et une mauvaise raison. La bonne raison, c'est que la Banque Centrale Européenne maintient des taux d'intérêt très bas. Et du coup, les entreprises françaises qui veulent racheter des concurrents étrangers ont accès à des conditions de financement extrêmement favorables. C'est, soit dit en passant, un des bénéfices directs et très évidents de l'Europe et de l'euro. L'autre moins bonne raison, c'est que les impôts, notamment l'impôt sur les sociétés, sont plus élevés en moyenne en France qu'ailleurs. Et du coup, on peut voir aussi dans ces rachats une manière de développer des activités dans des zones moins taxées. On peut aussi considérer qu'une part de ces rachats à l'étranger se fait un peu au détriment d'investissements qui auraient pu être faits en France. C'est le revers de la médaille.
Mais pourquoi les entreprises françaises sont-elles plus concurrentes que les entreprises allemandes ou d'autres entreprises européennes ?
D'abord, parce qu'il y a plus de grandes entreprises en France. Et donc, ce sont surtout elles qui sont à l'offensive à l'étranger. C'est d'ailleurs pour cette raison que les campagnes un peu démagogiques qu'on voit en ce moment de la part de certains partis politiques consistant à dénigrer le CAC 40 sont une aberration économique. Et puis deux, parce que les entreprises françaises hésitent moins à s'endetter, elles sont moins frileuses. Il faut sans doute y voir un signe, de dynamisme plus que de fragilité.
Merci Nicolas Barré, c'était votre édito Écho.
Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 7h19, Europe 1 va plus loin. À 4 jours des élections européennes, nous poursuivons notre voyage à travers le continent avec notre grand reporter Sébastien Krebs.
Nikos. Oui, à la une toujours l'Europe. Hein. Bonjour Sébastien.
Bonjour Nikos.
Après l'Estonie et la Suède, 3e étape ce matin, direction la Hongrie, où on va le voir, un homme est en train de lancer un grand plan pour repeupler la nation hongroise. Et cet homme, c'est celui qui se présente aujourd'hui comme l'ennemi juré d'Emmanuel Macron.
Oui, le surpuissant Premier ministre hongrois, Viktor Orban, leader incontesté aujourd'hui dans son pays. Son parti est à 55% d'intention de vote. Alors je vous emmène d'abord dans une banlieue de Budapest, petit meeting de quartier dans une salle municipale remplie de retraités de la classe moyenne. C'est un ministre qui est au micro, János Fonagy.
Il n'y a pas de problème plus important que l'immigration. On choisit notre avenir. Soit on sauve la culture judéo-chrétienne, soit on laisse le terrain au multiculturalisme. Notre message à Bruxelles, c'est qu'il faut stopper l'immigration.
Et ce message, il est aussi placardé dans toute la ville. C'est l'unique sujet de la campagne. Et pendant le discours, défilent les images des files de migrants, hein, celles de 2015, et des photos de l'attentat de Nice. Peu importe s'il n'y a pas vraiment de lien, ça fonctionne parfaitement pour mobiliser la base.
La Hongrie est depuis longtemps un pays chrétien. Eux n'ont pas la même culture, mais Bruxelles veut nous l'imposer.
L'Europe me fait peur. Viktor Orban, lui, il a bien compris la situation et le danger.
Et le ministre qui poursuit sur les bureaucrates de Bruxelles accusés de soutenir intentionnellement l'immigration musulmane illégale. Argument relayé en boucle dans les médias aussi, puisque aujourd'hui 80% quasiment appartiennent à des proches de Viktor Orban.
Mais la crise des migrants aujourd'hui en Hongrie, c'est encore une réalité ?
Alors c'est un peu là le sujet, parce qu'avec sa clôture bien gardée, le pays n'a quasiment plus de migrants à sa porte. L'an dernier, il y a eu 700 demandes d'asile quasiment toutes rejetées. Les candidats sont reconduits pour la plupart du temps en Serbie. Et toute aide apportée par les ONG est désormais criminalisée. Mais à mon micro, le ministre maintient cette baisse, dit-il. C'est juste une impression. Selon lui, 60 millions d'Africains s'apprêteraient à traverser la Méditerranée. Ça vous donne un peu une idée du discours qui est martelé. Mais est-ce vraiment la principale menace pour le pays ? On peut se poser la question. En fait, un sondage a montré que les Hongrois s'inquiètent beaucoup plus de l'émigration.
Vous êtes en train de nous dire que les Hongrois quittent le pays ?
Oui, beaucoup. La population décroît et vieillit. Elle pourrait baisser de 15% d'ici à 2050 et on manque déjà de main-d'œuvre dans les usines.
Et dit quoi là-dessus, Viktor Orban ?
Eh bien, on en vient à ce que vous disiez, Nikos. Repeupler la nation hongroise. Voilà la réponse de Viktor Orban pour éviter d'avoir recours à des travailleurs étrangers. Il faut des bébés hongrois plutôt que des migrants, se défendre biologiquement, hein, disait-il dans ce discours il y a quelques semaines, en annonçant un grand plan pour booster la natalité. Et je vous présente un couple qui en a profité, Daniela et Gabor. La trentaine, trois enfants et une belle maison de 150 mètres carrés qu'ils ont pu faire construire grâce à la naissance de leur troisième. C'était la condition pour obtenir une aide généreuse. En gros, l'État leur a payé la moitié de leur maison.
La maison nous a coûté 40 millions de forints, dont 25 d'aides de l'État. Au final, on nous rembourse que 10 millions à un taux très favorable.
Si on n'avait pas reçu cette aide, on n'aurait jamais pu se payer une telle maison et avoir un troisième enfant. Alors oui, je vais voter pour Orban, parce que je suis content et ce ne serait pas correct après avoir reçu cette aide de voter pour quelqu'un d'autre.
Et ce n'est pas tout, hein. Ils vont aussi recevoir un chèque pour acheter une voiture et ne paieront plus l'impôt sur le revenu.
Qu'est-ce qu'il veut ? Une jeunesse hongroise avant toute chose ?
Oui, et surtout qu'elle soit chrétienne. C'est l'autre volet de sa politique, le retour de la religion à l'école, même dans le public, et l'État qui se désengage et qui confie de plus en plus à l'Église la gestion de ses établissements scolaires, ce qui gêne parfois les parents d'élèves comme Georgie.
Ils ont appris à mon fils en primaire que l'homosexualité est un péché. C'était même écrit dans le manuel scolaire. Ça nous a déplu. Ces écoles gérées par l'Église sont plus conservatrices. J'ai l'impression que le gouvernement veut éduquer les enfants dans sa propre idéologie.
Et Viktor Orban offre aussi beaucoup d'argent public pour rénover les églises. Peu importe si elles restent assez vides, les Hongrois ne sont pas très pratiquants et les prêtres manquent. Au point que, et c'est un peu l'ironie de l'histoire, le pays fait aujourd'hui appel à des prêtres africains, mais communique évidemment beaucoup moins sur ces migrants-là.
La Hongrie de Viktor Orban aujourd'hui et ses 10 millions d'habitants environ, 21 députés européens à Strasbourg dimanche. On ira où demain, Sébastien ?
Demain, on ira en Croatie, c'est le pays voisin et c'est aussi le dernier pays à être entré en Europe. On verra ce qu'il en est 5 ans après.
Merci beaucoup, à demain.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre l'innovation avec vous, Anissa Mbida, ce matin. Du nouveau dans les prothèses auditives.
Oui, des prothèses sélectives pour choisir qui on a envie d'entendre et à qui on veut couper le sifflet.
Écoutez, c'est pas mal ça.
C'est pas mal.
Tout de suite.
Bon réveil avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Il est 7h24. Il est 7h26. EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour, l'innovation avec Anissa Mbida, Nikos.
Et c'est une innovation ce matin qui devrait intéresser les porteurs d'aide auditive avec un appareil qui permettrait de se concentrer uniquement sur une voix.
Oui, oui. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui utilisent ce genre d'appareil, mais elles vous diront toutes que c'est un enfer au milieu d'une foule bruyante, dans un restaurant,
ça prend tout, en fait.
Dans un bar. Voilà, ça amplifie tous les sons sans aucune distinction, donc on a beaucoup de mal à suivre une conversation. Eh bien, on travaille sur une nouvelle génération d'aide auditive qui est capable d'imiter le comportement du cerveau, c'est-à-dire d'amplifier uniquement la voix que l'on souhaite entendre et rien d'autre. Et ça peut vraiment changer la vie sociale des malentendants.
Un peu comme dans les micros qui sont unidirectionnels et qu'ils ne captent que la voix qui est la plus proche. Mais là, il faut regarder la personne à qui on parle pour
alors,
que ça marche.
Alors ça, l'unidirectionnel, c'est déjà ce qu'on fait sur certaines prothèses auditives d'aujourd'hui. Là, c'est beaucoup plus naturel puisqu'il suffit de se concentrer sur une voix en particulier et c'est la seule qui sera amplifiée. En fait, l'appareil utilise un petit capteur. Oui, il utilise un petit capteur qui va décoder les ondes cérébrales pour savoir exactement ce qu'on veut entendre. Donc c'est beaucoup plus confortable que d'avoir à tourner la tête. Alors il y a plusieurs équipes qui travaillent dessus, des Français dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle COCOA, ainsi que des chercheurs chercheurs américains de l'Université de Columbia. Donc on aura bientôt des aides auditives vraiment intelligentes, cette fois, et plus simplement de simples amplificateurs.
Et il faut rappeler que la déficience auditive est un handicap qui touche beaucoup de Français. Près de 7 millions de personnes en souffrent, et alors qu'ils ne sont que 40% à utiliser des aides auditives. Merci Anissa Mbida.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Plus d'infos sur edf.fr. Dans deux minutes, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite, la météo.
Attendez, je me concentre sur les ondes cérébrales de Laurent Cabrol.
Beaucoup de concentration.
Il va faire beau aujourd'hui, dis quoi le...
Comment
ah, qu'est-ce qu'il y a ?
Bonne vanne.
Bon, alors oui, il va faire beau. Il va faire beau aujourd'hui, il fera beau demain.
Et demain aussi.
Il faut en profiter parce que, vous le savez, nous sommes dans un cycle où il y a deux jours de beau temps pour ensuite un temps très moyen. Alors, ceux qui aiment ce temps vont se réjouir parce que ça va durer jusqu'à la fin du mois. Mmh. Et puis ceux qui ne l'aiment pas doivent prendre leur mal en patience parce qu'effectivement, le beau temps durable sur plusieurs jours... On ne le voit pas arriver, j'ai regardé plusieurs modèles, on ne le voit pas arriver avant le 2-3 juin. Vous voyez, donc
on a le temps.
Ce type de temps, on est encore obligé de le supporter, je suis poli. Alors, en ce qui concerne les températures, 18 degrés à Nice cet après-midi, 20 degrés à Lille, 21 à Clermont-Ferrand et Biarritz, 22 à Paris et Bourges, 23 à Rennes et Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, 24-25, 26 degrés à Perpignan et 28 à Arles. Donc vraiment des températures agréables. Le ciel ne sera pas limpide, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il ne sera pas limpide, mais nous aurons une impression agréable tout au long de la journée, sauf sur les Alpes-Maritimes.
De lumière et de chaleur. Merci beaucoup Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
À suivre Nikos.
Eh bien à 7h40, Jean-Michel Apathy sera très remonté après l'information qu'Europe 1 vous révélait hier. Deux salariés d'un hypermarché Cora licenciés parce qu'ils refusaient de travailler le dimanche. À 7h43, Axel de Tarlé, Engie, met le paquet sur les énergies renouvelables. Il veut devenir le numéro 2 mondial de l'éolien offshore. Et puis, à 7h45, plus que 25 jours avant le bac et la philo, eh bien je reçois ce matin un jeune homme qui s'y prépare. Il s'appelle Michel Barda, il a 77 ans. Il est le doyen des candidats au baccalauréat. Excellent réveil à tous sur Europe 1. Merci de nous faire confiance.
Nous sommes le mercredi 22 mai, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Céline Kallmann, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Un témoignage ce matin sur Europe 1, celui d'un ami de Vincent Lambert. Il était élève infirmier quand ils se sont rencontrés. Il est devenu le porte-parole du collectif 55 qui rassemble d'anciens camarades de Vincent. Tous ont très mal vécu hier les images de liesse et les mots employés par les avocats des parents après la décision de reprendre les traitements. Vincent Caruel dénonce un acharnement thérapeutique. Il souhaiterait que son ami parte sereinement.
Je pense qu'on a été trop gentils jusque-là, que ce soit peut-être François, Rachel ou nous-mêmes, même si nous on a un rôle mineur dans cette affaire. On en a un petit peu assez là de voir que le clan de Madame Lambert-Mère, c'est comme ça que je l'appelle, c'est toujours pareil, c'est un tissu de mensonges, c'est toujours tout et n'importe quoi, c'est toujours je retourne en ma faveur. Tout est manipulé, les écrits sont manipulés, les vidéos sont manipulées. Est-ce que Vincent, il pleure sur les vidéos ? Non, il pleure pas. Vincent, il est souffrant, il se crispe, il a certaines douleurs, certains réflexes. Ce qu'il faut, c'est respecter ce que Vincent a envie. Et Vincent Lambert, pendant ses années d'études, il nous a bien dit, à nous, ses amis étudiants infirmiers, voilà, durant des exploitations de stage, donc des débriefings où on parlait de situations vécues en stage, que si un jour il était face à une telle situation de grande dépendance, il préférerait partir. Donc aujourd'hui, on se bat pour lui. C'est la vie de Vincent Lambert qu'il faut respecter. Et ça, c'est notre combat.
Vincent Caruel au micro Europe 1 de Gian Bergaoui. Le représentant du pape François en France, Luigi Ventura, va être entendu par la police judiciaire parisienne aujourd'hui et demain. L'homme de 74 ans va être confronté à trois hommes qu'il accuse d'agression sexuelle, des gestes totalement déplacés comme des mains aux fesses infligées en pleine cérémonie officielle. Un CRS renvoyé aux assises en 2016 lors d'un rassemblement contre la loi travail, il avait lancé une grenade de désencerclement. L'explosion avait grièvement blessé un manifestant, ce dernier a perdu un œil. Le policier de 50 ans devrait être jugé pour violence volontaire.
Plusieurs meetings politiques hier soir à quelques jours du scrutin européen.
La tête de liste des Républicains, François-Xavier Bellamy, a dénoncé, je le cite, l'incroyable narcissisme d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen, elle a appelé à faire barrage à la liste En Marche. Elle a qualifié la France insoumise de France islamiste. Un sondage BVA Orange pour Europe 1 et La Tribune donne le Rassemblement National devant La République En Marche, 23% d'intention de vote contre 22%. La grande grande inconnue de cette élection reste aussi évidemment la participation. Certains ont déjà voté, des détenus en prison qui jusque-là devaient passer par une procuration ou une permission de sortie. Le vote a été facilité. Reportage à la prison de Vars près de Grenoble, Jean-Luc Boujon.
Une urne, un isoloir, des bulletins, c'est un bureau de vote presque comme les autres qui a été installé dans une petite salle près du parloir. Les détenus sont extraits tour à tour.
Vous êtes prêts pour l'élection européenne ? Mettez les chaussures.
Au total, 20 détenus sont venus voter hier à Vars sur une trentaine qui remplissaient les conditions, à savoir être inscrits sur les listes électorales et ne pas être déchus de ses droits civiques. On leur donne donc les consignes de vote.
On vous laisse prendre une enveloppe bleue. Vous choisissez au minimum 2 bulletins. Vous passez dans l'isoloir. Vous mettez votre bulletin dans l'enveloppe. Allez, on vous laisse faire.
Puis arrive donc le grand moment.
À voter.
Pour certains détenus, c'était donc la première fois avec un sentiment à la sortie du bureau très positif.
En tant que détenu, ça nous valorise un petit peu, on voit qu'on n'est pas oublié.
C'est bien, tu te sens comme tout le monde dehors.
Ça donne surtout cette idée de faire partie quand même, malgré tout, la société.
Impression confirmée par le directeur de la détention, Jean-Christophe Viard.
Ça crée un élan citoyen, ça permet de les resocialiser, de leur remettre un pied à la vie civile, à la vie du citoyen, à l'extérieur.
Les enveloppes seront ensuite acheminées de manière sécurisée à Paris avant le dépouillement dimanche. 5000 détenus vont pouvoir voter pour ces européennes en France, soit 4 fois plus que lors de la présidentielle de 2017. Vars, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Aux États-Unis, des milliers de personnes ont manifesté à travers tout le pays pour défendre le droit à l'avortement, un droit menacé depuis qu'une dizaine d'États ont voté ces dernières semaines des lois très restrictives sur l'IVG et même son interdiction quasi totale dans l'Alabama. Reportage à suivre dans le journal de 8h avec Xavier Yvon.
C'est parti pour le No Plastic Challenge. On va essayer en fait de limiter l'utilisation du plastique au quotidien.
Oui, c'est ça. L'objectif est de réduire collectivement notre impact plastique. On vient d'ailleurs de découvrir au large de la Corse une île de déchets avec plusieurs milliers de tonnes de plastique. Laure d'Autriche s'est rendue dans une famille parisienne du 13e arrondissement qui a déjà adopté les bons gestes pour éradiquer le plastique.
Avec 3 adolescents à la maison, Laure Albertini et son mari achetaient plusieurs packs d'eau chaque semaine. C'est terminé. Aujourd'hui, toute la famille boit l'eau du robinet. Un filtre a été installé pour améliorer la qualité de l'eau. Les shampoings et gels douche en bouteille ont aussi été remplacés par des savons sous forme solide, sans emballage, et les économies sont importantes.
J'économise là chaque mois au moins, je dirais, 50-60 euros. Plus de shampoings en bouteille à n'en plus finir. C'est drastique. Très très vite, on voit la différence.
Celle qui pousse le plus pour limiter le plastique, c'est la plus jeune de la famille, Livia, 12 ans. Il lui arrive même de faire gentiment quelques remarques à ses parents.
Là-bas, l'emballage de la plante, par exemple, c'est du plastique. C'est énervant. Moi, c'est hors de question qu'il y ait une seule présence de paille dans cette maison. Je vois une paille, c'est fini. Quand je mange à la cantine, des fois, il y a des fromages dans des emballages plastiques. Ça me fait mal au cœur de devoir jeter ça à la poubelle après.
Et la prochaine étape pour cette famille, c'est d'acheter le plus possible des vêtements sans élastane ou sans polyester, car ce sont des matières qui contiennent des particules de plastique.
Reportage signé Laure d'Autriche. Beaucoup de verres et plus du tout de voitures. Le passage du Trocadéro à la Tour Eiffel va se métamorphoser. D'ici 2024, il va être piétonnisé et végétalisé. C'est ce qu'a annoncé Anne Hidalgo hier lors de la présentation du projet de réaménagement du site de la Tour Eiffel.
Enfin, le RC Lens peut encore rêver d'un retour en Ligue 1.
Oui, hier soir, les Lensois ont battu le Paris FC après la séance de tir au but en pré-barrage dans une ambiance de folie au stade Charletti. Reportage de Cyril de la Morinerie.
On avait rarement entendu une telle ferveur à Charletti, stade qui d'habitude sonne creux et est un peu déprimant. Mais hier soir, ils étaient 15 000 en tribune, parisiens et lensois se sont répondus en multipliant les chants et les applaudissements. Très disputé, le match sur le terrain comme dans les tribunes a finalement été remporté par les 100 et or venus en nombre à Paris.
Exceptionnel, ça fait plaisir. Lens en Ligue 1, on y croit, on espère.
On a été à 100%, même à 200%, toujours derrière notre équipe. Même à la fin du temps réglementaire, on a continué à chanter. Et ça, c'est quand même fantastique.
7000 Lensois à Paris un mardi soir, c'est à peine croyable, mais c'est ça Lens, un club populaire qui a un public de Ligue 1, souligne le défenseur Guillaume Gillet.
C'est génial parce qu'ils font des sacrifices énormes pour venir nous encourager. On n'a pas envie que la saison s'achève.
Vendredi, Lens jouera à 3. En cas de succès, les Lensois devront ensuite remporter un dernier match face au 18e de Ligue 1 pour retrouver l'élite du football français.
Les hommes, les
Vous étiez à la soirée
Moi non.
Je vous ai entendu chanter dedans. Non, elle ne dort pas, surtout,
elle
enchaîne.
Elle dort pas.
Céline Kallmann, merci beaucoup et à demain.
Et si vous souhaitez réagir à l'actualité, c'est très simple. Vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, le coup de gueule de Jean-Michel Apathy ce matin.
Ouais, Europe 1 révélait hier que deux salariés de Cora à Saint-Malo avaient été licenciés pour avoir refusé de travailler le dimanche. C'est illégal, c'est scandaleux, c'est une affaire minable. Et qu'a dit hier de cette affaire la ministre du Travail, Muriel Pénicaud ? Rien. Rien du tout, elle doit dormir peut-être.
Vous êtes bien remonté. Bon, oui. Et ça n'est qu'un échantillon, on vous retrouve dans quelques instants. Axel de Tarlé, bonjour.
Bonjour, moi je vous parle du français Engie qui veut devenir l'un des leaders mondiaux de l'éolien en mer. Donc on s'interrogera sur cette technologie, est-ce que c'est vraiment l'avenir ?
Apathy Tarlé, duo gagnant dans un instant sur Europe 1.
Très belle matinée, il est 7h38. Mais il est 7h40, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Avec cette information qu'Europe 1 vous révélait hier, deux salariés de l'hypermarché Cora à Saint-Malo ont été licenciés car ils refusaient de travailler le dimanche. Et ce matin, Jean-Michel, vous nous dites, attention, ces licenciements sont dangereux.
Ah mais dangereux, injuste, insupportable pour la société, et les mots ne sont pas trop forts. D'abord, l'injustice au sens strict du terme. Allez, faites-le là, hein, sur le site du ministère du Travail, et regardez la fiche Travail du dimanche, vous verrez ceci écrit noir sur blanc. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Et le refus de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de licenciement. Alors les patrons du Cora Saint-Malo, Tintin, ils ont licencié les salariés en leur disant explicitement sur la lettre de licenciement « Vous avez refusé de travailler le dimanche, c'est une insubordination, faute grave, licencié sans indemnité. »
C'est un prétexte.
Quand vous ne respectez pas la loi, en général dans la société, je ne sais pas, vous brûlez un feu rouge, vous ne payez pas les impôts, vous faites autre chose, je ne sais pas, vous ne respectez pas la loi. Les pouvoirs publics, la puissance publique, pouvoir, puissance, tout ça, ça a un sens, se manifestent et vous disent, ben, vous ne respectez pas la loi. Là, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Rien. C'est-à-dire que la relation du fort au faible, du patron au salarié, joue exclusivement à l'avantage du fort. Le salarié, on le licencie. En plus, là, à l'illégalité, il y a l'injustice, parce que ces salariés avaient 18 ans et 8 ans d'ancienneté, licenciés pour faute grave, il n'y a pas d'indemnité de licenciement, il n'y a rien. Hop, à la maison. Alors, sans doute, je l'espère pour ces salariés, parce que sinon, ce serait catastrophique, avec Pôle emploi qui soutient et des indemnités de chômage, mais pour faire valoir leurs droits, il faudra attendre les prud'hommes 6 mois, 1 an, etc. Bon. Ça, c'est une situation injuste, mais alors, au sens le plus profond du terme. La ministre du Travail, elle ne pourrait pas se manifester. Il suffirait qu'au détour d'un couloir, Muriel Pénicaud dise que la direction de Cora sur le travail du dimanche ne respecte pas la loi pour que ses salariés soient réintégrés. Mais la ministre du Travail, où elle est, elle se planque. Il faut dire les choses comme elles sont. Quand quelque chose d'aussi important est bafoué, la politique doit parler. Pourquoi il y a un enjeu important ? Parce qu'en 2015, quand après des années de débats, en France, finalement, on a réglé la question du travail du dimanche. Gouvernement Valls, présidence Hollande. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, à l'époque, souvent interpellée là-dessus par les syndicats, a dit... La base du travail du dimanche, ce sera le volontariat. Il n'y aura aucun travail obligatoire. Et les syndicats n'y croyaient pas. Eh bien, ce matin, on se rend compte que la politique n'a pas de parole, que les engagements pris, peu importe que ce soit par les gouvernements précédents, ne sont pas tenus. Comment voulez-vous, à partir de là, que les citoyens aient encore confiance dans leurs gouvernants ? On s'étonne qu'il y ait des gilets jaunes. Eh bien, Mme Pénicaud n'a qu'à continuer à se taire, il y en aura un petit peu plus.
Vous l'interpellez, en fait, dans quelque sorte.
Bah, oui, j'espère bien qu'elle pourra prendre la parole là-dessus pour dire que ce qu'a fait la direction de Cora à Saint-Malo est inacceptable, injuste et insupportable. Il faut que ce soit rectifié tout de suite.
Le coup de gueule, surtout le point de vue de Jean-Michel Apathy ce matin sur Europe 1. Axel de Tarlé, Engie ambitionne de devenir le numéro 2 mondial de l'éolien offshore. Dites-nous en quoi ça consiste déjà l'éolien offshore.
Alors, eh bien, écoutez, d'abord, il y a beaucoup de questionnements sur l'éolien offshore et c'est plutôt rassurant de voir qu'un géant mondial du CAC 40 qui pèse 30 milliards en bourse veut devenir l'un des leaders mondiaux de cette technologie. C'est qu'elle a du potentiel. Donc, en l'occurrence, c'est Engie. Vous savez, Engie, c'est l'ancien Gaz de France qui s'associe avec l'EDF du Portugal. Et à eux deux, ils ambitionnent alors d'être présents un peu partout dans le monde, hein, en Europe et même en Asie. Et d'exploiter 5 à 7 gigawatts d'éolien offshore d'ici 2025. Alors 5 à 7 gigawatts, pour vous donner une image, c'est l'équivalent de, en gros, 6 réacteurs nucléaires. Donc vous voyez, c'est pas rien. Engie veut construire en mer l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires.
Mais à quel prix ? Parce que c'est plus cher, je crois, non ?
Alors, ça l'a longtemps été, mais justement, l'avantage, ce sont des technologies toutes nouvelles, donc dont les prix chutent très vite. Si bien que là, il y a un nouvel appel d'offres pour de l'éolien offshore au large de Dunkerque, eh bien, le prix de revient est de 50 euros le mégawattheure. Écoutez, c'est exactement le prix du marché. Et c'est même deux fois moins cher, figurez-vous, 50 euros, que le prix de l'électricité qui sortira de la future centrale EPR de Flamanville. Donc vous voyez, on est complètement dans les clous. Alors le problème de l'éolien, on le sait, c'est que l'électricité est intermittente. Et donc la question est, et que fait-on quand il n'y a pas de vent? Et bien justement, c'est l'intérêt d'être
en mer. On pédale.
Non, non, parce que figurez-vous qu'en mer, l'intérêt, c'est que le vent est beaucoup plus constant qu'en terre. Sur terre, une éolienne marche quoi? Un quart du temps. Sur mer, une éolienne va marcher la moitié du temps. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus constant. Et alors, surprise, ça je l'ai appris en préparant cette émission, ce sujet. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous savez où est-ce qu'il y a le plus de vent? Eh bien, ce n'est pas en Atlantique, c'est en Méditerranée. Et c'est justement pour ça c'est justement pour ça que l'État vient de lancer un appel d'offres pour construire des éoliennes au large de Narbonne, pour capter, donc ce sera en face de Port-la-Nouvelle et de Leucate, pour capter la Tramontane, aussi au large de Fos-sur-Mer, pour capter le Mistral.
Ouais, mais ils disent quoi les habitants? Parce qu'au niveau de la vue, ça va changer si on a des éoliennes en mer.
Alors justement, c'est là aussi, autre réponse, il y a une nouvelle technologie qui est l'éolien flottant. C'est l'éolienne, dans ce cas-là, n'est plus vissée au fond de la mer. L'éolienne flotte. Elle est simplement rattachée au fond marin par une ancre, exactement comme un bateau.
Comme un bateau.
L'avantage de cette technologie, c'est qu'on peut mettre les éoliennes beaucoup plus loin, avec une ancre un peu profonde. Oui. Et donc, on peut les mettre à 25 km de la plage, ce qui fait qu'elles sont beaucoup moins visibles. Mais vous avez raison. L'un des enjeux, c'est que ces éoliennes soient acceptées. Donc, il faut les installer là où elles gênent le moins. Et écoutez, ça vaut le coup quand même, parce qu'on a là une énergie propre.
Ça va ce qu'on veut.
À un prix compétitif et surtout qui est quasi en continu parce qu'elle est en mer.
Merci beaucoup Axel de Tarlet, c'était le Zoom Echo.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Vous disiez ?
Je disais bon réveil à tous sur Europe 1.
Et bon réveil à ceux qui préparent le bac, parce que le bac c'est dans 25 jours. Et les candidats sont en pleine révision et parmi eux il y a un homme, un doyen, 77 ans, il s'appelle Michel Barda, il habite dans Lyon et il se prépare à passer un bac L. Il est mon invité dans un instant, à tout de suite.
Et on leur souhaite à tous bon courage pour les révisions. Il est 7h46. Il est 7h48, les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Le Rassemblement National devant La République En Marche, selon le sondage BVA Orange pour Europe 1 et La Tribune, 23% des intentions de vote. La liste En Marche est à 22% à 4 jours du scrutin. Un CRS renvoyé aux assises pour violence volontaire, il avait lancé une grenade de désencerclement. Ça s'est passé lors d'une manifestation en septembre 2016 contre la loi travail. L'explosion avait grièvement blessé un manifestant. Le Sénat a voté à main levée cette nuit en première lecture l'instauration d'une taxe sur les géants du numérique portée par Bruno Le Maire. Et puis la tendance météo, une journée ensoleillée excepté sur les Alpes-Maritimes, mais la Corse où la journée s'annonce très agitée, température de 19 à 25 degrés.
Météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 8h.
Europe 1.
Nikos, à 25 jours du baccalauréat, vous recevez ce matin le doyen des candidats. Il s'appelle Michel Barda, il habite dans Lyon et il a 77 ans.
Bonjour Michel Barda.
Kalispera Nikos.
Ah, vous parlez grec en plus, vous devez réviser du grec ancien.
Ah, puis couramment.
Il est un peu tôt?
Oui, c'est un peu tôt, mais ici on est à la campagne. Hein.
On est à la campagne, donc vous révisez sans stress. Vous dites que vous vous plongez tous les jours dans les cours d'histoire, de philo, de français, mais de façon tranquille, relax. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que je fais l'impasse. Ce qui m'intéresse, c'est de réussir les matières comme le français, le théâtre et la philo. Le reste, je ferai comme je peux.
C'est quand même extraordinaire, Michel Barda. Vous avez 77 ans, vous passez le bac, c'est pas banal. Qu'est-ce qui vous pousse à le faire réellement?
Passer le bac, c'est en même temps une épreuve de culture que je m'impose.
Pourquoi vous passez le bac aujourd'hui en 2019 alors que vous auriez pu le passer plus tôt?
Oui, j'aurais pu. J'ai pas eu trop l'occasion ni encore tout à fait l'envie. Maintenant, j'ai envie vraiment de me mesurer au canon de l'académie d'aujourd'hui.
Oui, voir où est le niveau, où on en est, quoi.
Oui, et qu'est-ce qu'ils pensent de mes réponses aux questions qu'ils vont me poser, bien sûr, à l'écrit comme à l'oral.
Vous avez deux enfants, Michel, ils sont grands aujourd'hui.
Oui.
Ils ont passé le bac, vous les avez aidés, vous les avez conseillés, alors que vous ne l'aviez pas vous-même?
Mes enfants, qui passent le bac ou pas, s'ils ne le réussissaient pas, d'ailleurs j'ai une fille qui a passé un bac aux États-Unis, qui était bien plus difficile. Le bac en France, pour moi, je disais, ça ne sert à pas grand-chose.
Et pourtant, vous le passez à 77 ans.
Ah oui, mais moi, c'est un challenge, voilà.
Ouais. Un choix personnel.
Oui, oui.
Vous avez déjà passé des épreuves anticipées pour le bac, là?
Alors, j'ai passé les épreuves sportives. Le badminton, j'avais jamais fait de badminton de ma vie, donc j'ai commencé en février. Et le sauvetage. Alors sauvetage, ça veut dire qu'il faut nager, prendre des apnées régulièrement, et ensuite aller chercher un mannequin lourd qui pèse 80 kg au fond de l'eau, à 2 mètres de profondeur. C'est pas très profond, mais enfin, il faut l'attraper et le promener sans qu'il prenne l'eau. Et par contre, lui, il n'a pas pris l'eau, mais moi, je l'ai prise, hein, parce que j'ai bu la tasse plusieurs fois. Voilà.
Que vous disent les candidats que vous croisez, Michel Barda? Ils sont jeunes, ils ont 17, 18 ans.
Ils sont sympathiques. Enfin, au début, d'ailleurs, les premiers qui m'ont vu, ils ont dit « C'est vous qui faites passer les épreuves ?» Voilà.
Ils vous demandent des conseils? Pourquoi vous passez le bac, par exemple?
Non, eux ne me demandent pas. Ceux qui me demandent, ce sont souvent les moniteurs. Et qui me disent, mais pourquoi vous passez le bac? Est-ce que vous en avez besoin, etc. Et je dis non. Je dis non, c'est un challenge parce que je veux savoir comment je me mesure avec les canons de l'académie d'aujourd'hui.
Mmh. Bon, vous l'aurez. Allez.
Ah, si vous me le dites.
Et oui, vous avez eu toute une vie bien remplie, Michel Barda. Des voyages, vous avez effectivement été à l'école de la vie, dans le business, dans votre vie de citoyen, vos divers engagements. Qu'est-ce que vous a appris votre parcours? Alors qu'aujourd'hui, vous vous mettez sur le banc des élèves et que vous passez votre bac à 77 ans. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça?
J'ai appris que j'avais encore... je n'avais plus que 23 ans et des poussières à vivre.
Oui, parce que vous voulez vivre jusqu'à 100 ans.
Donc, il faut que je les remplisse bien et j'ai encore beaucoup de projets.
Vous savez quoi, Michel Barda? Vous êtes extraordinaire ce matin sur notre antenne, car à travers vos mots, à travers vos expériences de vie, à passer le bac à 77 ans par exemple, vous nous prouvez que ce qui compte avant tout, c'est le jour d'après, car tout est mouvement, émerveillement, curiosité. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, Michel Barda, et bonne chance pour le bac.
Merci. Et bonne journée.
Avez-vous passé votre bac? Trouvez-vous que le niveau a changé? Est-ce encore un diplôme utile? Dites-le nous sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, à 4 jours des européennes, les candidats tirent leur dernière cartouche. À l'image de Marine Le Pen en meeting hier soir dans Lyon, récit dès le début du journal de 8h. À 8h15, l'interview politique, Audrey Crespo-Morin reçoit la tête de liste Rassemblement National, Jordan Bardella. Et puis dans une minute, l'interview très rare sur la chaîne de télé américaine Fox News qui irrite Donald Trump. Ça sera la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. À tout de suite.
Avec Nikos Aliagas sur Europe 1, il est 7h53. Il est 7h56, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Vous savez quoi, Jean-Philippe Ballas? Ce matin, on allume la télé aux États-Unis. Il s'est passé quelque chose de rare sur Fox News, la chaîne des conservateurs.
Oui, même un truc de dingue, les amis. Figurez-vous que Fox News a accueilli longuement, en plateau et en public, un candidat du camp d'en face. Un démocrate, oui, comment vous dire? C'est un peu rendez-vous en terre inconnue. Avec, dans le rôle de l'explorateur, Pete Buttigieg. On vous en a déjà parlé, c'est la sensation en ce moment chez les démocrates. Jeune candidat, brillant, gay, vétéran de l'armée, et surtout qui veut parler à tous les Américains. Et c'est pour ça qu'il est là, sur Fox News, pour convaincre. Vous entendez? Il y a même des applaudissements, avec du fond, sur tous les sujets, et puis des punchlines quand même, notamment quand on lui parle des tweets compulsifs de Donald Trump.
Il faut absolument qu'on change de chaîne, qu'on arrête avec ce show qu'il a lui-même créé. Mais je le reconnais volontiers, c'est difficile de ne pas regarder. C'est même le propre des choses grotesques, on a du mal à ne pas regarder.
Voilà, grotesque, applaudissements encore. Et là, les amis, vous imaginez, à l'autre bout de la télécommande, le téléspectateur numéro 1 de Fox News, le président des États-Unis.
What's going on with Fox, by the way? What's going on there?
C'est vrai ça, qu'est-ce qui se passe avec Fox News, les amis? C'est ce que se demande Donald Trump, plutôt agacé, ça c'était lors d'un meeting hier. Alors je vous rassure, hein, les éditorialistes de la chaîne ont joyeusement pilonné Pete Buttigieg, histoire de rétablir l'équilibre. Trop tôt, bien sûr, pour deviner son avenir politique, mais vous savez quoi? Moi je rêve d'un face-à-face en vrai entre les deux hommes. Ce serait certainement épique, mais sûrement pas grotesque.
Avec Stallone dans Creep. Jean-Philippe Ballas, la petite histoire du jour.
À suivre le journal de David Doucan, tout de suite, la météo avec Laurent Cabron-Nicos.
Et quelques températures du matin, je n'ai pas donné encore.
Oui.
5 degrés à Nancy en ce moment, 6 à Brest, 7 à Besançon et Deauville. À Lille, en banlieue parisienne, à Vannes, à Rennes et Strasbourg, entre 8 et 9. 10 à Toulouse et Cognac, 12 à Lyon, Biarritz et Paris-Ville. Et 13 à Marseille et 16 à Perpignan. Voilà, ce sera une journée sans histoire. Une journée, disons, avec un ciel qui sera légèrement pommelé, légèrement nuageux ici ou là, excepté sur les Alpes-Maritimes et la Corse, où là nous avons malheureusement un temps un peu plus agité, malheureusement, mais enfin, ça porte de la pluie. Et donc partout ailleurs, ce sont des passages nuageux totalement inoffensifs. Ce sera le cas aujourd'hui, ce sera le cas demain, et ensuite nous allons changer de temps comme prévu,